n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Non, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
À la base, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, votre magazine consacré au cinéma sur Radio G. Vous l'écoutez un mercredi sur deux. Ce soir, on retrouve l'équipe au complet. Bonsoir Margot.
Bonsoir Anne-Lie, bonsoir à toutes et toutes.
Et bonsoir Véronique.
Bonsoir Margot, bonsoir Anne-Lie. Très heureuse de reprendre ma place dans ce studio.
Mais on est heureuse de t'entendre à nouveau.
Merci.
Tu as œuvré pour le cinéma.
Oui.
Alors au programme de cette émission, un spectacle pour regarder et écouter les films autrement, on vous présentera Cinéclang, un ciné-concert tout public que vous pourrez découvrir le 25 février à la Maison pour tous Mon Plaisir et qui est proposé par les Jeunesses Musicales de France. On en parle dans un instant avec notre invité. De son côté, Margot a terriblement envie de vacances, de neige, de froid et nous propose donc une sélection de films dans cette ambiance. Ce sera le florilège des films de neige. On parlera aussi de films que vous pouvez voir en ce moment, en salle ou en ligne.
Les campagnes, les programmes, il y aura des échos à la politique avec les promesses et municipales. Deux sorties récentes que nous avons été voir la semaine dernière et sur lesquelles nous reviendrons.
Et maintenant que vous savez ce qui vous attend, il est temps de recevoir notre invité avec Véronique.
Bonjour, donc nous accueillons Jean-Paul Pacot, qui est président des Jeunesses Musicales de France en Maine-et-Loire. Bonjour Jean-Paul Pacot.
Oui, bonjour Véronique, bonjour à tous et à toutes.
C'est un plaisir de vous accueillir dans notre émission et nous vous recevons, comme évoqué au début, à l'occasion de la venue le vendredi 25 février à la Maison pour tous Mon Plaisir à Angers, du spectacle Cinéclang. Mais avant de parler plus de ce spectacle et de son installation donc dans le quartier de Mon Plaisir, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les Jeunesses Musicales de France ?
Alors les Jeunesses Musicales de France, c'est une association qui est déjà ancienne parce qu'elle date de la Libération. C'est une association d'éducation populaire et qui a pour mission de faire découvrir au jeune public le spectacle musical vivant. Mmh. Et donc en Maine-et-Loire, nous intervenons essentiellement en milieu rural, mais aussi en ville et tout particulièrement dans le cadre de projets structurés. Qu'on essaie de développer sur un territoire donné, qu'il soit rural ou qu'il soit à l'échelle d'un quartier.
D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des musiciens propres au département de Maine-et-Loire qui vous accompagnent ?
Alors, ça peut se trouver, mais disons que les propositions que nous faisons, ce sont des propositions nationales. C'est-à-dire qu'on a une saison nationale et c'est l'intérêt justement, c'est de pouvoir proposer des groupes qui viennent de la France entière. Ça peut arriver qu'on ait des groupes régionaux, par exemple actuellement dans la région vous avez peut-être vu les ciné-concerts de Crin Blanc de la compagnie Anaya, et bien la compagnie Anaya fait partie de la programmation des JM France. Donc on a tout un système de repérage au niveau régional, à l'échelle régionale de groupes, dont on pense qu'ils ont une offre intéressante en matière de spectacle musical pour le jeune public. On les repère, on les auditionne et certains d'entre eux intègrent des programmations nationales.
Et alors, donc nous, on est une émission de cinéma. Les Jeunesses Musicales de France sont plus consacrées à la musique. Donc quelle est cette proposition de spectacle à la croisée donc de la musique et du cinéma ? Et est-ce que c'est quelque chose qui se propose fréquemment par les Jeunesses Musicales de France ?
Alors tout à fait, parce que le mot qui est important, c'est croisement. Parce que c'est vrai qu'on sait que le jeune public, c'est très difficile de lui proposer un concert pur, hein, qu'il soit instrumental, qu'il soit lyrique. On est toujours obligé d'avoir une accroche. Et cette accroche, ça peut être du cirque, ça peut être de la danse, ça peut être une histoire qu'on raconte, des contes ou des légendes, des mythes, ou ça peut être du cinéma. Et c'est avec ces doubles accroches musicales et un autre mode d'expression artistique qu'on arrive à capter, à retenir leur attention et à leur proposer en quelque sorte une double porte d'entrée dans le spectacle vivant.
Donc vous avez déjà une expérience dans le fait de présenter des ciné-concerts. Ce ciné-concert-là s'appelle Ciné-Clang. Il est singulier. Il a été créé par Jean-François Houël et Hervé Mabille. Et avant d'échanger sur cette création en particulier, nous vous proposons d'écouter un extrait du spectacle.
Ciné-Clang, c'est un projet de spectacle jeune public à mi-chemin entre le spectacle interactif et le ciné-concert, qui veut sensibiliser les gens et leur faire découvrir un petit peu les coulisses de la musique et du son au cinéma. Nous avons demandé à la réalisatrice Christine François de nous tourner des petits films d'une minute environ, des scènes courtes, des scènes de genre, où on nous retrouve sur l'écran dans des personnages qui sont dans des situations différentes. Par exemple, une scène dans un café, une scène de filature. Et sur chacune de ces scènes, on va tester à chaque fois des musiques différentes. Et on va se rendre compte que si on passe une musique angoissante, ça va appeler à un film, à une scène policière.
Mais c'est toi ? Mais non, c'est un flic. Il s'appelle Running Bob.
Nous avons entendu Jean-François Houël et Hervé Mabille, les deux créateurs et musiciens du spectacle. C'est un spectacle avec des séquences filmées, projetées, et où toute la partie sonore, musique et bruitage est réalisée en direct. Quels sont les objets et instruments qui sont utilisés et manipulés par les deux musiciens bruiteurs ?
On a à la fois, si vous voulez, des instruments musicaux traditionnels, hein, clavier, flûte, clarinette. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle de la lutherie sauvage, c'est-à-dire des instruments fabriqués, des objets détournés. Alors on va trouver, par exemple, une flûte traversière balai, une pelle clarinette, hein, ou alors un cajot à légumes qui sert de harpe. Et en fait, c'est intéressant parce que, d'une part, il y a une dimension poétique qui est derrière ces bricolages, et d'autre part, ça permet d'avoir à la fois une interprétation d'une partition musicale et en même temps du bruitage. Et la limite entre bruitage et musique s'estompe finalement, puisqu'on sait très bien que ce soit au théâtre, à l'opéra ou au cinéma, que souvent les bruitages, ce sont des sons bricolés. Et on est parfois surpris d'ailleurs de voir comment est-ce qu'on peut simuler le vent ou l'orage avec des objets qui ne sont pas du tout faits pour ça.
Et il y a beaucoup de bruiteurs qui expliquent d'ailleurs que si on prenait les vrais sons, finalement le spectateur ne les reconnaîtrait pas parce qu'ils sont tellement bricolés dans ce qu'on a l'habitude de voir que, en fait, on associe au vent, par exemple, un son qui n'est pas forcément le son naturel, le son bruité est connu différemment des spectateurs que le son naturel.
Tout à fait.
Et pour rebondir aussi, il y a une autre particularité à cette proposition de spectacle, c'est que les musiciens, je crois, sont à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous en...
Les musiciens, on les voit sous un double régime, ce qui d'ailleurs, pour le très jeune public, peut être une interrogation. Hein, ça, c'est un peu comme dans Woody Allen, quand Woody Allen sort de l'écran dans La Rose pourpre du Caire. Hein. Donc là, on les voit à la fois, en effet, à l'écran, où ils interprètent des personnages de fiction, et on les voit sur le plateau, où ils interprètent le bruitage et la composition musicale. Donc c'est à la fois pour le jeune spectateur un facteur de séduction et d'interrogation. Et ça, c'est intéressant.
Et je crois qu'ils exploitent aussi un autre intérêt aussi du rapport à la musique, c'est comment la musique se révèle, comment la musique peut jouer un rôle différent sur une même image.
Et oui, parce que en fait, habituellement, les ciné-concerts, on parle d'un film, qu'il s'agisse d'un dessin animé ou qu'il s'agisse d'un film de fiction ordinaire. Souvent, un film du patrimoine, je parlais tout à l'heure de Crin Blanc, c'est le très beau film de la Maurice. Bon, et on parle de ça et on fait une proposition musicale originale à partir d'un film qui existe. Là, la démarche est assez différente puisque ce film est réalisé à la demande des deux artistes et avec les mêmes images, les mêmes personnages, donc on l'a vu, les mêmes acteurs, le même montage, la même durée. Selon l'illustration musicale et sonore que les musiciens vont proposer en direct, eh bien on va avoir soit un thriller, soit une comédie romantique. Et c'est très intéressant parce que pour le jeune public, et pas simplement le jeune public, d'abord ça rappelle que le cinéma, c'est quelque chose à voir et à entendre.
Et que tout est fabriqué.
Et que tout est fabriqué. Et que du point de vue du sens et de l'atmosphère et de la signification même de ce qu'on voit à l'image, eh bien le son joue un rôle déterminant.
Une dernière question encore, c'est... nous nous installons dans le quartier de Montplaisir. Il y aura une représentation à 20h, à 20h30 le soir, des séances scolaires en journée. Il y a un projet derrière ?
Oui, il y a un projet derrière. Et, bon, ça fait plusieurs années qu'on est en partenariat avec la Maison pour tous de Montplaisir. On travaille très très bien avec cette structure à laquelle on est très attaché. Mais cette année, le projet a pris une dimension particulière parce que vont participer au spectacle les écoles et les collèges de la nouvelle cité éducative qui s'implante sur le quartier. Donc ça fait quand même 6 établissements, 4 écoles et 2 collèges. Et ils vont venir au spectacle, mais pas seulement, parce que nous proposons en amont du spectacle des ateliers de bruitage et de sonorisation avec la compagnie Simonstre de Simon Astier. Donc pendant toute la semaine qui précède le 25 février, il y aura dans les écoles, dans les collèges, des ateliers. Et donc là, les élèves vont s'essayer à créer une petite bande-son sur quelques images animées et ils auront l'occasion donc de voir un peu ce que des artistes peuvent faire et à un niveau évidemment d'exigence artistique et ben voilà, bien, bien supérieur parce que ce sont des artistes professionnels.
Merci beaucoup Jean-Paul Pacaud pour cette présentation. Nous avons l'eau à la bouche, donc je rappelle aux auditeurs que le spectacle, ce ciné-concert Ciné-Clang sera joué à la Maison pour tous Montplaisir vendredi 25 février pour le tout public à 20h30. Les tarifs vont de 2 à 8 euros et la réservation se fait à la MPT. Merci beaucoup et au revoir.
c'était I Can See Clearly Now, reprise par Jimmy Cliff, un titre issu de la bande originale du film Rasta Rocket, qui ne nous rajeunit pas. Mais nous en parlerons un peu plus tard dans l'émission Patience. Vous écoutez toujours Caméra Subjective, le magazine cinéma de Radio G, et la fréquence, c'est le 101.5 FM. On continue l'émission avec nos coups de cœur cinéma de la semaine. Annie, c'est une sélection très politique que nous vous proposons.
Oui, car certaines sorties nous renvoient forcément à cette vie politique qui s'agite particulièrement en ce moment. Et pour commencer à observer ce jeu de campagne et se poser des questions sur la démocratie représentative, vous pouvez aller voir un objet cinématographique non identifié ou en tout cas difficilement classable. Il s'agit de Municipal de Thomas Polo, Ferdinand Flamme et Milan Alfonsi avec Laurent Papeau. Donc c'est un documentaire, en tout cas c'est un film qui tourne autour d'un dispositif. Un acteur est engagé pour se présenter aux élections d'une ville, aux élections municipales. On est à Revin, dans les Ardennes, qui est une ville qui a été sinistrée, délaissée avec les fermetures, le départ des industries. Et Laurent Papeau est vraiment parachuté pour les besoins du film. Il n'a ni ambition politique, son métier c'est acteur, il n'est pas du tout dans un parti, et il n'a pas de programme quand il arrive. Mais il se présente bien en son nom, vraiment, et il essaie de construire une liste avec les habitants, les habitantes qu'il va croiser, de leur expliquer la démarche. Donc il fait vraiment campagne, avec énergie, tout en étant très clair et très honnête sur le fait qu'il est acteur, et que si jamais il était élu, il ne restera pas, il quittera le fauteuil de maire en le laissant vide. Donc voilà, vous le comprenez, ce film est à mi-chemin de beaucoup de choses, de l'expérimentation, de la blague, du documentaire, du scénario écrit. Moi j'ai trouvé ça assez passionnant. L'acteur se présente, les scénaristes sont ses directeurs de campagne, mais ils sont assez effacés. Il y a aussi vraiment eu un local de campagne dans la ville de Revin, donc ça a duré plusieurs mois, plusieurs semaines. Ce local de campagne est aussi devenu un espace de dialogue, de réflexion, avec vraiment des réunions de présentation, etc. etc. Et ce qui m'a plu, c'est de voir ces débats qui se jouent entre des habitants qui... Déjà, voir une campagne se nouer, c'est un peu surprenant, où on peut se poser des questions. Quelles sont les promesses qu'on m'annonce? Est-ce que je peux croire cette personne? Mais alors là, en plus, que ce soit au sein d'un dispositif de film, avec des caméras, une part de fiction, d'une certaine façon. Hein. Parce que l'écriture est... On n'est pas là pour filmer une situation qui serait advenue en dehors du documentaire. Et c'est là aussi qu'il y a cette part de fiction. Et j'ai trouvé ça... très intéressant le trouble qui est justement apporté par cette situation écrite, où on a vraiment des débats entre les habitants, des questions qui se posent. Bon, bah, qu'est-ce qui va le plus faire bouger les lignes? On est après les gilets jaunes, avec un désintérêt possible de la politique. Est-ce que c'est d'être vraiment dans une fiction, ou bien est-ce que c'est de présenter vraiment une liste qui va être le plus chamboulant pour la vie politique? Oui, Margot.
Oui, tu parles de trouble, Annie. Il y a effectivement à la fois le trouble des habitants de Revon, qui sont réellement sollicité par ce comédien candidat pour participer à la campagne, pour de vrai, avec vraiment quelqu'un qui se présente comme n'ayant pas de programme. Et puis il y a aussi le trouble du spectateur qui ne sait pas très bien ce qu'il regarde. Et je trouve ça assez intéressant, ce questionnement que ça engendre chez nous, spectateurs, comme chez ces futurs électeurs ou futurs participants de la campagne.
Oui, mi-acteur, etc. Complètement. Alors ça peut être perturbant. On peut aussi se dire, quelle est la manipulation? Il y a des scènes qui sont en partie écrites, ou alors on en a dit, attendez, vous venez de dire quelque chose de passionnant, bah, on va le refaire devant les caméras. Il y a vraiment une part qui est assumée hein, par l'équipe d'écriture. Moi, ça m'a plu, ça m'a touchée, parce que je ne me suis pas attachée à me dire, est-ce qu'on me raconte quelque chose de vraiment vrai? J'ai pas le sentiment que Municipal prétend à être purement objectif, à être un reportage documentaire détaché de tout affect. Déjà, on n'est pas sûr que ce soit possible. Mais là, le trouble, je trouve, est assumé, et ça m'a intéressé de voir ce mélange. Et puis, il y a des scènes quand même assez improbables, assez cocasses, drôles. Tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, c'est aussi un film assez pédagogique sur le quotidien d'une campagne, c'est-à-dire qu'on pense, quand on va voter, on vote pour un maire, mais on oublie parfois que ce maire, pour que sa liste existe, il doit avoir des conseillers municipaux et qu'il faut trouver une trentaine de personnes, et que dans des villes de petite taille, c'est pas si simple que ça, parce que ça implique autant de familles, donc autant de viviers d'électeurs. Donc ça, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant dans le film, cette approche très l'accompagne pas à pas, quelles sont les différentes difficultés auxquelles peut être confronté un candidat.
Ouais, donc le film est certainement pas parfait, des fois il y a d'autres choses. Enfin bon, moi il m'a plu, il y a un deuxième film dans le film presque, mais je vous laisse aller le voir si cette présentation rapide vous a donné envie de le découvrir. C'était Municipal, donc annoncé comme un documentaire mais qui n'en est pas tout à fait un, de Thomas Polo, Ferdinand Flamme, Milan Alfonsi avec Laurent Papeau, nouvelle star de la politique.
Alors un autre film pour parler politique et municipal, c'est le film Les Promesses de Thomas Kruithof. Alors, avant de parler vraiment de ce film-là, j'aimerais juste vous demander si vous vous souvenez d'un autre film qui parlait déjà de politique municipale et qui s'appelait Alice et le maire, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, qui était un film réalisé par Nicolas Pariser, dans lequel Fabrice Lucchini, qui était le maire de Lyon, demandait à sa nouvelle conseillère, une brillante normalienne interprétée par Anaïs Dumoutier, il lui demandait de redonner du sens à son action politique. On découvrait un maire complètement un peu perdu et qui avait énormément de doutes sur l'impact de ses décisions, un vrai sentiment d'échec de son mandat de première édile. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans Les Promesses, qui est donc un film qui vient de sortir, c'est qu'en fait, ce nouveau long-métrage de fiction, lui, semble répondre en fait à ce questionnement que nous transmettait Alice et le maire. Alors Thomas Kruithof, qui est le réalisateur du film, a coécrit Les Promesses avec Jean-Baptiste Delafont, qui est lui l'un des créateurs de la série à succès Baron Noir, qui déjà se situait dans le domaine de la politique. Alors au cœur du film Les Promesses, il y a la cité des Bernardins, qui est un ensemble d'immeubles HLM vétustes et insalubres, dont l'immense silhouette domine une commune populaire du 93. Alors les appartements de cette cité HLM sont habités par des familles modestes ou même des sans-papiers, sous la houlette d'un mystérieux marchand de sommeil qui tire ficelles et profits dans l'ombre. La rénovation de cet ensemble devient l'enjeu à la fois majeur et presque dérisoire, je dois dire, du mandat de la maire Clémence, qui est incarnée avec force par Isabelle Huppert. Alors cette Clémence, cette mère, on la découvre dès la scène d'ouverture du film, démarche pressée et assurée pour traverser le hall de sa mairie au petit matin. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le son rapide et sec de ses hauts talons nous dit déjà tout, en fait, de la conviction et de la détermination de son personnage. Et de façon encore plus intéressante, le film se clôt sur une séquence assez similaire quand Clémence quitte, avant l'aube, son bureau de maire. Et cette fois-ci, le son de ses talons est dominé par la musique du générique de fin. Et il me semble qu'entre ces deux séquences, tout est dit du parcours de cette femme qui va être amenée à peut-être tirer sa révérence de fin. Alors, aux côtés de Clémence, il y a un efficace directeur de cabinet, Yazid, dont on apprend qu'il a grandi dans la cité des Bernardins. C'est Reda Kateb qui campe ce personnage astucieux et plutôt attachant. Et tous les deux, donc Yazid et Clémence, vont tout faire pour tenir la promesse de Clémence aux habitants des Bernardins, obtenir une subvention du Grand Paris pour rénover leurs immeubles. On parle de plusieurs millions d'euros. Alors, le film, il est vraiment admirablement bien construit et il développe un vrai suspense autour de ce challenge semé d'embûches tout azimuts. On peut aussi noter et apprécier le réalisme de cette intrigue et du décor dans lequel elle se déploie. Car en partant de cette situation très concrète de rénovation d'une cité HLM, le film montre de façon plutôt réjouissante 2 enjeux de la politique locale. D'une part, servir des administrés qu'on peut saluer au quotidien dans un restaurant, sur un marché ou dans une réunion publique, des électeurs, en fait, qui peuvent prendre à partie leur maire ou se montrer reconnaissants. Et ça, le film le montre très bien avec une multiplication des séquences presque didactiques, là encore, sur le fonctionnement de la politique locale. Et puis, il y a aussi, on voit un autre enjeu qui est celui d'entretenir des ambitions un peu moins avouables, peut-être. Celle de Clémence, par exemple, la maire, qui rêve, en fait, d'intégrer un futur gouvernement à l'occasion d'un prochain remaniement. Ou celle de Yazid, son directeur de cabinet, qui, lui, espère être appelé pour faire partie d'un cabinet plus prestigieux. Et là encore, le film Les Promesses ne cache rien de ces manœuvres discrètes qui ne sont pas rappelées, il faut bien le dire, la politique actuelle. Donc voilà, un film que je vous recommande qui s'appelle Les Promesses et qui est réalisé par Thomas Kruithof, à voir en salle.
Eh bien moi, j'ai un autre conseil assez rapide à voir en ligne cette fois. Le film est un documentaire. Alors cette fois, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Il s'appelle Jungle. Il a été réalisé par Louise Mutz. Il dure 50 minutes, donc c'est assez court. En tout cas, on peut le caser dans son emploi du temps. Et dans ce film, la jeune réalisatrice a filmé son entourage et plus particulièrement ses amis, d'autres jeunes femmes qui, comme elle, ont la vingtaine et vivent à Paris aujourd'hui. Alors les personnages, moi je les ai trouvés hautes en couleur. Vous ne connaîtrez pas toute leur vie dans ce film. C'est pas du tout un portrait de parcours, où est-ce qu'elle se situe, elle a envie d'atteindre ceci, cela. On voit beaucoup plus des instantanés qui racontent déjà beaucoup de choses. C'est un film où on discute beaucoup, où on est très proche des conversations entre amis. Donc on parle d'amour, de sexe, de projets futurs, de famille, avec beaucoup de joie et puis parfois de la tristesse ou de la frustration. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit vraiment comment ces personnages, ces jeunes femmes sont très drôles, très intelligentes, décalées aussi. Enfin, moi je trouvais que c'était des super... ça donne envie de les rencontrer en fait. Et c'est des esquisses de portraits très vivants. Les dialogues sont vifs, même si on parle vraiment de la vraie vie, hein, y a pas d'écriture. Mais moi, ça m'a bien embarqué, avec aussi des séquences complètement improbables, inattendues, de scènes de musculation avec des objets étonnants. Enfin voilà, moi, ça m'a bien emmenée. Je ne vous en dévoile pas plus, mais vous pouvez regarder juste les 10 premières minutes. Je pense que ça va vous permettre de savoir si vous avez envie de poursuivre le visionnage de ce film ou si c'est pas du tout pour vous. Moi, ça m'a vraiment emmenée. Donc, c'est très facile à trouver. C'est Jungle de Louise Mutz. Et c'est en ligne sur la plateforme Tank pendant les 45 prochains jours. Je crois qu'il n'y a pas de besoin d'inscription. On met le lien dans le podcast de l'émission à la page de Caméra Subjective. Et ce documentaire est en sélection officielle pour le César 2022 du meilleur court-métrage documentaire. Voilà, il n'y a pas que moi qui l'apprécie.
Merci Ali, merci Margot. Eh bien, il me revient l'art de faire la transition. Et cette fois-ci, nous repartons dans la neige, dans les montagnes, et avec un florilège de films proposés par Margot pour nos vacances d'hiver.
Un coup de zig, un coup de zac. Il y a une chose qu'il faut savoir. On ne se casse pas la gueule en bobsleigh. Non, on se l'éclate. Alors, qui est volontaire?
On cherche un sponsor qui veut financer l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque.
Ils rêvaient de concourir aux Jeux Olympiques. Mais ils ont choisi un sport dont ils ignorent tout. Et qui se pratique sous des cieux peu cléments.
Il faut pas oublier une chose, le truc vital dans ce sport, c'est la résistance au froid.
L'histoire véridique de quatre athlètes pas comme les autres.
Alors, des athlètes pas comme les autres, assurément, puisqu'il s'agit, vous l'aurez compris, de l'improbable équipe de bobsleigh de la Jamaïque, décidée à concourir pour les JO d'hiver de 1988, organisée à Calgary, dans l'ouest glacial du Canada. Alors, vous aurez bien sûr reconnu le film Rasta Rocket, Cool Running en VO, réalisé par John Turtletaube. Le film a été un grand succès à sa sortie en salle en 1993. Eh bien, j'y étais, puisqu'il a rassemblé plus de 2,5 millions de spectateurs dans les salles françaises. Presque 30 ans après sa sortie, il reste une comédie familiale très efficace et agréablement convaincante sur la persévérance et la force des rêves. Mark Twain lui-même ne disait-il pas: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J'ajoute que le ressort comique du film, à savoir l'incongruité de la participation d'athlètes issus d'un pays chaud à une compétition dans une discipline du froid, me paraît résonner de façon très actuelle avec des JO qui se déroulent en ce moment même sur des pistes de ski dont la neige est intégralement artificielle.
Un autre conseil de film dans ce cadre hivernal ?
Alors, il y a une série de films d'animation, cette fois-ci, qui s'appelle L'Âge de glace. Alors, 5 épisodes sont disponibles, dont les intrigues se situent plus ou moins dans une ère préhistorique glaciaire. La série s'est construite autour de 3 personnages emblématiques et récurrents qui vivent des aventures délirantes. Alors, il y a pour commencer Manny, le mammouth grognon, Sid, le paresseux bout en train, et Diego, un tigre à dents de sabre qui se révèle avoir aussi un grand cœur. La qualité de l'animation, le choix des comédiens qui prêtent leur voix aux personnages, Gérard Lanvin, Elise Moon et Vincent Cassel, pour ne citer que les trois principaux. Et l'humour de la série font vraiment le succès de ces films à voir et à revoir en famille. Et puis, franchement, on a un sérieux faible pour l'écureuil Scrat et son précieux gland. Autre ambiance, mais toujours la promesse de rire un bon coup. Si vous voulez prendre des cours de ski et devenir infaillible sur le planté de bâton, n'hésitez pas à reprendre une louche des Bronzés font du ski, bien sûr, le film de Patrice Lecomte réalisé avec la troupe du Splendide. Je suis sûre que votre VHS est plus que rayé à force de visionnage, mais il faut bien avouer que ce film culte du début des années 80 nous fait toujours autant rire. Et impossible pour moi de monter dans un télésiège sans chanter dans ma tête « Allez, j'ose !» Étoile des neiges, pays merveilleux, quand te reverrai-je, pays merveilleux.
Je suis rassurée, Margot, de savoir que tu vois des films qui sont aussi drôles et légers, que tu as l'air de maîtriser aussi bien que tous les autres.
Je vois plein de films différents, Ali.
Mais la neige, c'est aussi quelques moments plus graves.
Effectivement. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur le magnifique film d'animation « Le sommet des dieux » réalisé par Patrick Imbert, que nous vous avons conseillé dans une précédente émission. Néanmoins, je vous signale que l'une des scènes qui m'a le plus marquée est une séquence d'avalanche à laquelle le héros alpiniste échappe de justesse. Le souffle, la puissance et la vitesse du phénomène sont incroyablement rendus dans ce film. J'en ai encore la chair de poule. Alors, c'est aussi une terrible avalanche qui est au cœur de Snow Therapy du réalisateur suédois Ruben Östlund, celui qui a obtenu la Palme d'Or avec The Square. Esthétiquement très réussi, ce film raconte l'histoire d'une famille aisée qui passe une semaine de vacances dans une station luxueuse de sports d'hiver. On comprend assez vite que le père a pas mal de choses à se faire pardonner. Il travaille trop, par exemple, et il s'occupe pas beaucoup de sa famille. Un jour, alors que la famille est installée à déjeuner dans un restaurant d'altitude, une avalanche est déclenchée dans la montagne face à eux. La neige dévale la pente à grande vitesse et devient menaçante à mesure qu'elle semble se rapprocher de la terrasse. Quelle va être la réaction de chacun des membres de la famille ? Sang-froid, solidarité, héroïsme, peur, fuite ? Alors, comme souvent dans ces films, le réalisateur suédois interroge subtilement nos réactions individuelles quand nous sommes confrontés à des situations exceptionnelles, à un danger inattendu, à un grain de sable dans nos vies bien réglées. Il s'intéresse à l'impact de ces comportements déviants sur la cohésion d'un couple, d'une famille, ou plus largement de la société. Et le résultat est assez glaçant, je dois dire.
Un dernier conseil pour finir, Margot ?
Eh bien, il s'agit d'un fabuleux documentaire réalisé par le cinéaste Werner Herzog, dont peut-être vous connaissez l'œuvre de fiction, très souvent incarnée par le comédien Klaus Kinski. Alors, ce documentaire, il est consacré à la très haute montagne et il s'intitule « Gasherbrum », du nom de l'un des massifs de plus de 8000 mètres qui se dressent dans la chaîne himalayenne. Au début des années 1980, le réalisateur allemand a suivi l'alpiniste Reinhold Messner et son acolyte Hans Kammerländer dans leur tentative de gravir consécutivement, c'est-à-dire sans repasser par un camp de base, les deux sommets du géant bicéphale Gasherbrum. Le documentaire est vraiment passionnant et haletant tant la figure de Messner en impose avec une force mentale hors du commun. Les paysages sont assez fantastiques. On est là quasiment au bout du monde, dans des décors où on ne sait plus très bien comment distinguer le ciel de la terre. Et évidemment, je ne vous dévoilerai pas la fin, mais sachez que Reinhold Messner est toujours en vie déjà et qu'il est reconnu comme une légende de l'alpinisme depuis qu'il est devenu en 1986, c'est-à-dire quelques années seulement après le film, le premier homme à avoir gravi les 14 8000.
Ça a l'air fatigant, cette histoire. On ne sait même pas tout à fait ce que c'est, mais c'est fatigant. Merci Margot pour ces conseils de films enneigés qui vont nous permettre d'occuper toute la séance des vacances, toute la période des vacances. Véronique, toi, tu as d'autres conseils un peu à la volée. Je sais, je te prends au dépourvu ou non. Hein.
Peut-être que tu me prends au dépourvu. Du coup, ce serait plutôt d'aller retrouver les montagnes pour de vrai.
Et de fermer tout écran. Oui.
Et de ne pas regarder de film pendant 15 jours.
Mais aller au cinéma, à la station de ski, c'est chouette aussi.
Ouais, c'est pas mal. Merci.
Eh bien, ça y est, cette émission se termine. Caméra Subjective vous retrouvera dans 2 semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère vous avoir donné envie de découvrir toutes les choses dont on a parlé ce soir. Normalement, il y en a pour tous les goûts et tous les publics. N'oubliez pas que Ciné-Clang, ce ciné-concert tout public justement, c'est le 25 février à la MPT de Mon Plaisir à Angers. C'est à 20h30. Et si vous avez manqué une info, toutes les références, tous les liens utiles sont disponibles à la page Caméra Subjective sur le site de Radio G. Vous aurez aussi la possibilité de nous réécouter à loisir avec le podcast. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines donc pour un nouveau programme que je ne vous dévoile pas puisqu'il est en cours d'écriture. Ce sera une nouvelle surprise. Et dans quelques minutes, à 20h, vous retrouvez Rudy's Back à l'émission qui arrive juste après. Et la semaine prochaine, à notre place, ce sera Bande Geek Mafia qui vous parlera très certainement de séries, de cinéma, de bandes dessinées, de plein de choses assez fabuleuses. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée, une joyeuse quinzaine et à la prochaine émission. Au revoir. Troubles.